Vous écoutez RTL.
Votre invité Olivier Mazerolle ce matin est donc la ministre de la Culture.
Bonjour Fleur Pellerin.
Bonjour.
L'actu nous parle du retour d'un écrivain ce matin, Nicolas Sarkozy. Vous allez lire son livre?
Je ne suis pas sûre que ce sera le prioritaire en haut de la liste.
Bon, mais vous lui accorderez le bénéfice de la sincérité quand vous lirez le livre?
Je ne suis pas sûre, je vous le dirai quand j'aurai parcouru quelques lignes.
Alors, après les attentats, on parle beaucoup de sécurité, c'est tout à fait normal. Mais quel est le rôle de la culture contre le fanatisme?
Écoutez, je crois qu'il est majeur. Je pense qu'effectivement, nous sommes dans une période d'inquiétude, d'angoisse, où le gouvernement répond en prenant des mesures pour garantir la sécurité des Français, et garantir aussi la sécurité des publics dans les salles de spectacle. Ça, c'est ma responsabilité aussi avec le ministre de l'Intérieur. Mais tout ça, c'est un droit. Ce n'est pas forcément une valeur ou un principe auquel nous serions attachés en tant que nation. Et donc, je crois que ce qui est très important en ce moment pour les pouvoirs publics, pour les responsables politiques, mais pour les intellectuels, pour l'ensemble des personnes qui réfléchissent à ce qu'est la nation, c'est très important de retrouver du lien face à tout ce qui a tendance à séparer les gens. Et on voit en ce moment beaucoup de tendances à des gens à se regrouper autour de logiques identitaires, religieuses, communautaires. Et je crois que nous avons une voix forte à porter, gouvernement, institution, pour au contraire faire prévaloir des logiques de solidarité qui reposent sur autre chose, mais et en particulier la culture.
Est-ce qu'on s'appuie suffisamment, notamment à l'école, sur cette richesse formidable de la littérature française qui montre comment la France a fait évoluer les idées dans le monde à travers les siècles?
Mais vous savez, je pense que c'est pas seulement la littérature, c'est la littérature, c'est la musique, c'est... Oui. Nous avons en France une tradition...
C'est des échanges d'idées quand même.
Oui, mais nous avons en France une tradition d'accueil de grands artistes, que ce soit des écrivains, des intellectuels, des philosophes, des poètes, des musiciens.
Mais on exploite ça suffisamment, cette
et
richesse?
Et je pense que, vous avez tout à fait raison, je pense qu'il faut faire valoir auprès des plus jeunes, en particulier que, à travers cet accueil d'artistes, la France s'est aussi construite de cette façon comme nation. C'est-à-dire la France est une terre d'accueil. Et donc, ce que nous avons fait, en particulier sur la question de l'éducation artistique et culturelle, je ne peux pas vous détailler les programmes scolaires en littérature, mais ce que nous avons fait sur l'éducation artistique et culturelle avec ma collègue Najat Vallaud-Belkacem, c'est nous avons donné un sens à ce que doit être ce cycle d'enseignement en éducation artistique et culturelle. Jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de cursus, c'est-à-dire que ce qui était enseigné aux jeunes dépendait chaque année du professeur d'art plastique qu'ils avaient. Donc nous avons créé un vrai cursus, c'est-à-dire que nous avons défini les compétences, les savoirs, les expériences qui doivent être acquises à chaque moment du cycle d'enseignement, en primaire, au collège. Et c'est quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais c'est la première fois que c'est fait, parce que nos deux ministères ont toujours eu beaucoup de mal, depuis Malraux, en réalité, à travailler ensemble. Donc, pour la première fois, nous nous mettons ensemble et nous définissons ce que doit être l'apprentissage d'un rapport à la culture pour tous les enfants, c'est-à-dire un rapport à une œuvre, un rapport à un artiste, parce que nous croyons que c'est la bonne façon de déclencher l'émotion artistique.
Il n'empêche que, quand même, votre ministère a publié des statistiques de 2015, avec ce commentaire, les écarts dans l'accès à la culture entre les cadres supérieurs et les ouvriers ont peu évolué depuis 1970. Pourquoi la culture reste-t-elle quand même réservée finalement à des gens qui sont déjà cultivés au départ ?
Parce que probablement, c'est aussi un choix qui a été fait de beaucoup parler de démocratisation culturelle et finalement d'en faire assez peu. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai présenté mes vœux au ministère et aux institutionnels de mon ministère hier, et j'ai assigné comme priorité à tout le monde de véritablement travailler sur la démocratisation culturelle, peut-être d'en parler un peu moins, mais d'en faire un peu plus, parce que cette préoccupation, c'est-à-dire le fait que finalement l'accès à la pratique culturelle, l'accès à la culture reste encore très surdéterminé par les conditions sociales, l'origine sociale et économique des gens, est quelque chose que je trouve totalement inadmissible.
Un exemple, en septembre dernier, et vous l'aviez déjà fait plusieurs mois plus tôt, François Hollande disait, le Louvre, le musée d'Orsay, le château de Versailles vont rester ouverts tous les jours pour que les enfants des écoles puissent accéder plus facilement. Ces musées, c'est toujours pas fait.
Si, c'est en train de se faire.
C'est en train, mais c'est pas fait.
Vous savez, faut discuter avec
les
syndicats.
Il avait dit, ça se fera à l'automne.
Il faut réorganiser les choses. C'était un jour de fermeture où on rangeait les œuvres, on faisait le ménage, etc. Donc il faut réorganiser complètement le travail dans les établissements. Ça prend un peu de temps, mais c'est en train de se faire. Et ça vaudra pour les jeunes et pour les publics les plus éloignés, pour les personnes handicapées, les personnes âgées, donc les publics qui ont besoin de pouvoir visiter dans de bonnes conditions. Donc voilà un exemple. Il y en a mille autres d'exemples pour pour améliorer l'accès à la culture de ceux qui sont les plus éloignés. Oui, mais il y a ce sujet des musées, il y a l'ouverture, l'extension des horaires des ouvertures des bibliothèques, sur lequel je travaille également, parce que je considère
que les syndicats ne
les médiathèques... Mais bien sûr que si on discute, il faut discuter, moi j'ai une logique aussi de dialogue, et en tout cas toutes ces mesures doivent s'ajouter les unes aux autres pour faire en sorte que la culture appartienne à tous. Et la culture, c'est la culture cultivée, c'est l'opéra, c'est le théâtre et la comédie française, mais c'est aussi le hip-hop, c'est aussi la culture urbaine. Donc moi je souhaite ne pas dire que tout se vaut, mais en tout cas je souhaite pouvoir donner de l'excellence et de l'exigence à tous dans tous les domaines culturels.
France Télévisions veut lancer une chaîne publique Tout Info, et pour marquer la différence, Delphine Ernotte, qui est la présidente de France Télévisions, a dit elle sera sans publicité. Vous êtes d'accord? Vous appuyez cette détermination?
Moi, vous savez, j'avais fixé une feuille de route très claire à la présidence de France Télévisions avant que Delphine Ernotte soit désignée, parce que je trouvais normal que l'État actionnaire, au nom des Français qui payent quand même la redevance, puisse donner de grandes directives à cette nouvelle présidence. Et donc j'avais dit, le décryptage de l'information sera pour moi une priorité et je souhaite que la nouvelle présidence prenne cette priorité en compte. Et donc la présentation de ce travail, de ce projet de chaîne d'information en continu, rentre tout à fait dans la feuille de route que le gouvernement avait donnée à Delphine Ernotte. Maintenant, les conditions dans lesquelles ça va se faire et les modalités techniques, est-ce que ça sera sur la TNT, est-ce que ça sera sur le net, est-ce que ça sera sur les deux, tout ça est en train d'être décidé, nous y travaillons, enfin eux y travaillent surtout, et nous allons prendre des décisions dans les mois qui viennent. Moi ce que je souhaite, c'est en tout cas qu'il n'y ait pas de coûts supplémentaires pour les contribuables, donc que ça ne se traduise pas par de l'argent supplémentaire que l'État devrait mettre, ça les responsables de l'audiovisuel public le savent très bien, et je ne souhaite pas non plus déstabiliser le marché publicitaire. Donc si on a une chaîne d'infos en continu qui affiche aussi sa singularité en étant totalement sans pub, ben, ça me va très bien. Mais encore une fois, tout n'est pas encore décidé. Les dirigeants de Radio France et de France Télévisions doivent me présenter un projet finalisé dans les prochains...
Et donc peut-être sur le RTN.
Prochaine semaine. Et donc c'est effectivement...
Avec un nouveau canal ou en prenant des canaux actuellement dévolus à France Télévisions?
On verra, je ne peux pas vous dire autre chose. Delphine Ernotte a dit hier qu'il n'était pas question de priver les chaînes actuelles d'un canal. Donc soit il y a des modulations techniques qui nous permettent de développer cette chaîne avec le nombre de canaux actuels, soit il faudra en préempter un autre. La décision sera prise en temps utile.
Il y a beaucoup de questions sur votre avenir. Est-ce que vous surveillez de près les agissements de Christiane Taubira?
Non, c'est une rivale. Non, je crois que vous en parlez plus que nous entre nous ou nous tout seuls. Vous savez, moi j'ai été présente dans le gouvernement depuis 2012, j'ai vécu plusieurs remaniements, donc à un moment on s'habitue aussi un petit peu, et vous savez, moi je suis pas au service de ma propre carrière, de mon propre ego, de mes états d'âme personnels, je suis au service de la France, je suis au service de François Hollande et du Premier ministre. C'est une aventure qui est extraordinaire d'être au service des Français, mais maintenant, moi j'ai pas du tout de problème d'ego, donc je pense avoir fait beaucoup de choses, et j'ai eu l'occasion de le dire au cours de mes vœux, depuis 18 mois, j'ai engagé énormément de chantiers qui me paraissent des chantiers utiles, je souhaite évidemment pouvoir les mener, puisque c'est toujours mieux de voir aboutir ces chantiers que de les laisser en cours de route, j'ai quand même une loi très importante qui arrive au Sénat avant la fin du mois, donc tous ces chantiers, j'aimerais évidemment pouvoir les poursuivre avec la confiance du Président et du Premier ministre, et donc maintenant j'attends de manière très placide et très sereine, sans beaucoup d'inquiétude, ce qui va se produire et ce qui doit se produire arrivera.
Merci Fleur Pellerin.
Merci à vous. Merci à tous les deux. Dernière question Fleur Pellerin sur un sujet qu'on évoquait tout à l'heure sur RTL. Plusieurs artistes, notamment Christophe Willem, Michel Polnareff, Benjamin Biolay, ont décidé de renoncer à utiliser Twitter parce qu'ils en ont assez de se faire insulter. Les avocats nous disent que c'est très compliqué de faire quelque chose. Comme ministre de la Culture, est-ce que vous nous dites si la loi ne suffit pas, il faut la changer?
Non, alors en fait, la grande difficulté, c'est que ces entreprises, qui sont des plateformes, ont leur siège à l'étranger.
Et donc, ne reconnaissent pas. Et les insultes, elles sont en France.
Oui, et donc, ne reconnaissent pas la juridiction française, ne reconnaissent pas les décisions de justice qui sont prises en France. Donc, si vous vous attaquez, par exemple, parce que vous vous faites insulter, il faudra que la décision de justice française soit reconnue aux États-Unis. C'est une procédure très longue qui rend extrêmement compliqué de faire appliquer la justice par ces plateformes. Voilà, c'est ça qui est très, très compliqué.
Il y a la mondialisation de l'économie et il y a la mondialisation de l'insulte.
Mais des propositions sont en train d'être faites actuellement dans le cadre de la loi Le Maire, justement, pour donner davantage de responsabilité à ces plateformes.
Et donc, plateformes
et
ses réseaux sociaux.
Vous verrez peut-être des évolutions de la réglementation et de la loi dans quelques mois.
On va regarder ça. Merci beaucoup Fleur Pellerin, merci Olivier Mazerolle.